Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 26 avril 1968 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
FMR s'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec pour commencer... C'est... Allô ? Présidente
Allô
Suzanne ?
Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui vaut votre coupure ?
Eh ben, une petite nouvelle, là, enfin, il me semble une grande nouvelle, et qui vient de tomber sur mes dépêches personnelles, donc je voudrais que, à l'antenne, on puisse tout de suite faire un communiqué de presse. Il s'agit de Pascal Sevran.
Ah non, si j'ai pas confirmation, moi je peux pas diffuser l'info.
Si, c'est très 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 sûr, doublement certifié, j'ai mes deux sources, voilà. Donc on peut l'annoncer à l'antenne, hein. Pascal Sevran n'est pas mort, il est toujours vivant.
Oh mince, oh, il faut faire un hommage alors, il faut
voilà,
faire un hommage.
Dites, je compte sur vous.
Vite, la chanson française n'est pas morte.
Voilà.
Merci Suzanne.
Mon bon vieux grand-père qui était comédien, quand j'étais gamin, chantait ce refrain. Tout en remontant avec précaution, la petite manivelle d'un vieux phono à pavillon. Sur mon phono, mon bon vieux phono, petit tu vois, quand j'ai le cœur gros, je mets un rouleau. Et je revois Paulus, Maillol, les rois du music-hall, Dranham, Narquois, qui chantaient les petits pois sur mon phono, mon bon vieux phono, sans me déranger. Je peux écouter le premier numéro de Chevalier. Je vois la Scala, l'Eldorado. Et moi, enlevé de rideau, sur mon phono, mon bon vieux phono, qui chante faux. Par un soir d'hiver, pour une grande tournée, grand-père est monté au ciel étoilé. Et j'ai hérité, oh pas de ses mignons, mais de son métier du phono à pavillon. Sur mon phono, mon bon vieux phono, comme autrefois, quand j'ai le cafard, que les contrats sont rares, alors ma foi, je donne un tour de clé à son cœur de métal et de son côté. Il me remonte le moral, et même si je n'ai pour mon déjeuner qu'un petit sandwich, en écoutant son vieux son fêlé, je me sens plus riche, et je suis prêt à mettre au clou ma montre et mes bijoux, mais sûrement pas, je vous le dis bien haut, mon vieux phono. Et nous resterons, c'est bien certain, unis comme les doigts de la main. Car mon phono, mon bon vieux phono, oui mon phono, mon bon vieux phono, qui a connu mes joies, mes chagrins, c'est mon copain.
Bientôt mai 68, 40 années de mai 1968, Radio FMR, tenant à rester par ma voix une radio d'opposition municipale. Rappelons-nous quand même que c'était le moment où une jeunesse pourri gâtée qui n'a pas connu la guerre, les privations, s'est révoltée et s'est lancée. Alors il y a plein de revues gauchisantes qui vont vous parler de mai 68, il y a ainsi le magazine de jeunes pilotes du néanmoins excellent René Goscinny qui va en parler avec témoignage de Pierre Christin, Marie-Ange Guillaume, Pétillon, Baru, Martin Véron et des petits jeunes qui est-ce qui paraît vont se lancer bientôt dans pilotes comme Mandrika, Lozier, Druyer et d'autres gamins qui n'étaient pas encore nés en mai 68 comme Menu, Larsenet, Barral ou Charbe et ceci sur une couverture soit de Cabu ou soit de Jean Giraud, ça dépendra de votre fournisseur de poissons. Mais il y a aussi des jeunes qui ne sont pas encore nés et qui en parlent déjà. Ainsi, nous avons réussi à choper par radio-téléphone Arnaud Bureau et Alexandre Franc. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Arnaud, comment allez-vous en ce joli temps? En ce joli printemps?
Bah, ça va bien. Ça va bien, on est en route pour une dédicace à Chartres. Voilà, notre
d'accord.
Première dédicace.
D'accord, donc avis de manifestation à Chartres. Donc Arnaud Bureau est le scénariste et, si je peux dire, c'est un travail de scénariste ou c'est un travail de journaliste?
De scénariste ou de journaliste, c'est ça?
Oui.
Plutôt, j'allais dire de scénariste et d'historien. Mmh. J'ai une formation d'histoire et j'avais fait un mémoire de maîtrise sur mes 68. Et puis par ailleurs, je m'intéresse après à la bande dessinée. Donc voilà, c'est un scénario sur une base historique qui raconte vraiment les événements du mois de mai en utilisant des narrateurs fictifs de façon à rendre l'histoire un peu plus vivante et plus libre.
D'accord. Pourquoi toi, avec le dessinateur Alexandre Franc, vous êtes lancé, je te tutoie, hein, je m'excuse mais tu es jeune, vous êtes lancé dans une histoire qui n'est pas de votre génération?
Alors, moi personnellement, ça m'intéressait parce que, en fait, c'est une époque qui est un petit peu, on va dire, un petit peu mythique, des événements un peu mythiques. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul par rapport à cette époque et avec le recul, justement, ça paraît un petit peu irréel par rapport au monde qu'on connaît aujourd'hui puisque les années 60, c'était une époque de croissance où la vie était plus facile qu'aujourd'hui et où on croyait encore beaucoup aux idéologies, on croyait encore qu'on pouvait changer le monde. Par rapport à ce qu'on pense aujourd'hui, c'est... Ça paraît assez lointain et très différent, donc c'est fascinant à cause de ça, je dirais.
Tu parlais d'idéologie, justement, entre nous, le parti de l'anti-France vous a payé combien?
Le parti de l'anti-France, c'est-à-dire Cohn-Bendit et sa clique, c'est ça?
Oui, le Dalai Lama, tant qu'on y est.
Non, j'ai pas d'opinion là-dessus, je crois que c'est un peu exagéré.
D'accord. Est-ce que mai 68, quand même, ça a 40 ans, est-ce qu'il n'y a pas une mythologie autour que veut essayer de relancer une gauche, on va dire, molle, en panne d'idées?
Oula. Honnêtement, c'est vrai que la gauche de l'époque et la gauche d'aujourd'hui est largement l'héritière de la gauche de l'époque. À l'époque, elle a été assez gênée par mai 68, que ce soit Mitterrand, que ce soit tous les classiques de la SFIO, etc. Ils étaient complètement décalés par rapport à cette jeune génération qui s'exprimait de façon très différente d'eux. Donc, je pense que probablement aujourd'hui, quand la gauche revendique cet héritage, il y a une bonne partie des cadres de la gauche actuelle qui sont quand même issus de cette génération, mais c'est vrai que on peut difficilement... mai 68, en tout cas c'est son expression la plus extrême, j'allais dire, dans l'héritage de la gauche actuelle.
Et la gauche dure, les révolutionnaires permanents et professionnels?
Voilà, il y a des liens, c'est certain. Quand on entend Besancenot parler du Che, etc., il y a quand même une filiation avec les corpuscules trotskistes de l'époque qui est claire.
Est-ce que donc cet album qui est sorti hier chez Berg International, donc je rappelle le titre mais j'ai oublié de le donner en fait, mai 68, histoire d'un printemps, ça a été un album que vous avez mûri ensemble depuis un certain temps ou que finalement vous avez préparé un peu vite sur le coup, histoire de faire un coup commercial?
En fait, l'idée est venue de notre directeur de collection, Didier Passamonique, qui est bien connu dans le monde de la bande dessinée et qui nous a proposé ça l'été dernier. Donc effectivement, on a réalisé l'album dans des délais assez courts. On a quand même eu quelques mois devant nous. Et alors, évidemment, il y a un créneau, puisque aujourd'hui, sur le plan éditorial, il y a beaucoup d'agitation autour de mai 68, mais par ailleurs, aussi bien Alexandre que moi, je pense qu'on l'a fait vraiment par intérêt pour le sujet. Et donc, de notre part, il n'y a pas d'opportunisme.
Oui.
Est-ce que, puisqu'on se tutoie, je peux te passer à Alexandre si tu veux avoir un peu ses...
Je sais pas, Thomas, peut-être une question encore au scénariste, hein.
Pour les deux, en fait, bonjour Arnaud.
Bonjour.
Le style graphique est assez... Il y a beaucoup de parti pris, en fait, dedans. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est Alexandre qui t'a proposé ce style-là ou est-ce que c'est un style qui a été mûri aussi en amont?
Alors, c'est le style d'Alexandre, un petit peu adapté, un peu simplifié, j'allais dire, parce que, comme je disais, on avait des délais assez courts. Mais je vais te passer à Alexandre, alors, qui parle de l'aspect graphique.
D'accord, merci. Bonjour Alexandre.
Allô ?
Oui, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Xavier et Thomas de Radio Éphémère. Donc en fait, le graphisme, en fait, c'est un graphisme qui est très illustrator. Est-ce que c'est ton style habituel ?
Un graphisme qui est très, pardon ?
Qui est proche de illustrator. Est-ce que c'est ton graphisme habituel ?
Oui, c'est quand même mon graphisme habituel. Alors il est pas du tout, il est pas fait sur illustrator, mais donc il est fait à l'ordinateur, hein, oui.
Ouais, c'est un l'infographique.
C'est du dessin à la palette graphique, oui. C'est un graphisme un peu simplifié par rapport à ce que je fais d'habitude, enfin, disons, en gros, à l'album que j'ai fait avant celui-là. Mais oui, c'est mon dessin, oui, oui. Mmh. Alors, j'ai essayé par moment de me rapprocher un petit peu, de m'inspirer du graphisme, des affiches de mai 68, parce que c'est faire une bande dessinée en bichromie avec le rouge et le bleu comme seule couleur, c'était aussi un petit peu l'intérêt de l'affaire. Mais donc mon dessin navigue entre les affiches de mai 68 et puis mon style habituel qui est un petit peu qui a des influences variables qui vont d'Hergé au dessinateur américain, donc mais qui est une sorte de ligne claire. Qui est mon style, oui.
C'est ça qui est intéressant, c'est que mai 68, ça a été aussi la révolution des affichistes, avec des affiches très très fortes, comme La France a peur tous les jours aux 20h, ou bien les images de De Gaulle détourées à propos de la chien-lit. Donc c'est un peu une bataille de slogans et une bataille, je vais dire, graphique sur les murs. Oui. Est-ce que du coup, t'aurais pas aimé profiter de plus de temps ou se dire justement non, j'ai pas envie de faire ce que tout le monde attend de mai 68, qu'on soit dans le style graphique des affiches.
Je sais pas, c'est-à-dire que en bande dessinée, on n'attend pas forcément un dessin qui s'inspire des affiches de mai 68, parce que c'est un graphisme qui est très très schématique, très proche un petit peu de la signalétique parfois, avec beaucoup d'ombres chinoises, détourées, comme vous dites. Et ça, en bande dessinée, c'est pas forcément facile à manier, pas forcément lisible. On doit quand même dessiner des personnages identifiables, donc rentrer dans les détails un petit peu. Donc en fait, en bande dessinée, on peut pas totalement s'écarter d'un dessin un peu mimétique qui tend quand même un petit peu vers la ressemblance. Donc de ce point de vue-là, on peut pas faire toute une BD en affiche de mai 68, je pense. Ou alors ça serait plus du graphisme que de l'illustration, enfin que de la narration en dessin. Mmh.
Question purement technique. Illustrer la chien-lit en pâte d'ef, est-ce que finalement ça relativise sur la mode vestimentaire actuelle?
Oui, mais en fait la mode actuelle, si les pattes d'Ef et les années 70 reviennent, justement on l'a seulement dessiné à la fin de l'album, quand on évoque un peu l'héritage de mai 68 et les années 70. En fait, les étudiants qui étaient à la Sorbonne étaient pas encore en pattes d'Ef. Hein, on a regardé un petit peu ça avant de commencer à dessiner, quoi. Et la mode était encore au pantalon un peu serré, aux chaussures de ville et à la veste, même à la cravate pour certains. La mode pas de def un peu babacool est venue plus tard.
D'accord, merci Alexandre. La suite des questions, en fait, on va les poser à Arnaud. Merci. Donc Alexandre Franc est le dessinateur et Arnaud Bureau est le scénariste de ce bouquin qui vient mai 68, Histoire d'un printemps. Arnaud, tu es quand même relativement engagé politiquement. C'est pour ça qu'il nous a été intéressé d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que d'après toi, le général de Gaulle avait peur de Mendès France, il avait peur de Pierre Mendès France et de François Mitterrand. Quelle est l'image de ces deux gauchistes à l'époque auprès de la jeunesse?
Alors, Mitterrand et Mendès, je crois pas qu'on puisse les qualifier de gauchistes du tout. Mitterrand, au contraire,
était... Enfin, il parlait de prolétaires à l'époque, hein, lors de la campagne pour les présidentielles en 62.
Oui, oui, mais enfin, gauchistes, c'était pas ça, justement. Enfin, les groupuscules gauchistes se démarquaient aussi bien de, on va dire, du camp impérialiste et les États-Unis, le capitalisme, que du camp communiste de l'Union soviétique et de voilà des structures un peu staliniennes qui pour eux étaient englués dans la bureaucratie et aussi dans la coexistence pacifique avec le bloc de l'Ouest. Donc ils rejetaient totalement aussi aussi ce bloc communiste. Les gauchistes c'était vraiment voilà des groupuscules qui se réclamaient de différents maîtres à penser et qui voulaient faire la révolution et la faire à partir de l'héritage enfin de références intellectuelles qui vont de Trotsky à Mao. Voilà, donc Mitterrand et Mendès n'étaient pas du tout dans cette perspective là. Voilà, c'est pour ça qu'on peut pas les qualifier gauchistes. Mitterrand avait vraiment une très sale image à l'époque.
Oui, merci, merci au RTF chaîne 2 de l'avoir appelé en début de semaine.
En fait, Mitterrand traînait notamment plusieurs casseroles. Il y avait Vichy, il y avait l'Algérie. Il avait été ministre de l'Intérieur pendant au début de la guerre d'Algérie. Il y avait aussi l'affaire de l'Observatoire. Donc, il n'était pas très bien vu, vraiment perçu comme un ambitieux. Il avait quand même réussi à mettre De Gaulle en ballottage en 65 pendant la présidentielle. Mais il n'avait pas une bonne image. Mendès, lui, avait une meilleure image. Il était plus perçu comme quelqu'un d'intègre.
Mais lui était plus dans la mouvance démocrate, plus proche en fait de Kennedy.
Il était proche du PSU, en fait, le Parti Socialiste Unifié, qui était dirigé par Rocard. Et Sauvageau, qui était le leader de l'UNEF, était membre du PSU. Donc Mendès était plus proche, on va dire, dans les structures du mouvement, mais c'était quand même quelqu'un de tout à fait raisonnable et réaliste. Et donc il y avait beaucoup d'éléments plus extrémistes du mouvement qui refusaient Mendès aussi. Donc, alors Mendès avait une sympathie pour le mouvement, il s'intéressait à la jeunesse, donc il avait une certaine sympathie, mais en même temps il voyait qu'il y avait un côté irréaliste. Et donc il a été question, effectivement, on l'a perçu comme un recours pendant pendant quelques temps, durant le mois de mai, parce que beaucoup de gens pensaient que De Gaulle allait perdre le pouvoir. Mendès était perçu comme un recours, mais lui-même voyait très bien que s'il devait prendre le pouvoir dans le contexte de cette crise, qui était quand même très importante, puisque le pays était paralysé par le mouvement de grève, il voyait très bien que la tâche serait très difficile. Donc Mitterrand était assez hostile idéologiquement. S'il y avait une possibilité de prendre le pouvoir, il n'était pas contre. Voilà, Mendès était plus sympathisant, mais quand même aussi assez inquiet de voir l'économie française paralysée, en fait.
D'accord. Alors, on a une tradition dans cette émission, c'est on fait une collecte de choses. Ça peut être des films, ça peut être des trucs au hasard. Et on en fait un classement, il faut en faire un top 5. Alors, on va pas faire le jingle et tout, parce que ça va être un peu le bazar par ton insert téléphonique. Donc, on va te demander, c'est vrai que mai 68 est arrivé en même temps, juste après le printemps de Prague, avec le bond en avant aussi en Chine.
Juste avant.
Juste après.
Avant la répression du printemps de Prague.
Voilà. Alors, je vais te demander de faire un top 5 du plus beau coup d'éclat de mai 68. Alors, il y a le blocage de la collecte des ordures, faire passer une séance parlementaire à la télévision, faire fuir le général, arrêter le festival de Cannes ou provoquer la manifestation du 30 mai 68 avec 1 million de patriotes de droite.
Donc il faut que je classe ça par ordre.
Oui, mais juste le numéro 1. Hein.
Juste le numéro 1.
Le numéro 1 dans ce top 5, je suis obligé de répondre au hasard. Je vais dire la manifestation de patriotes le 30 mai, c'est quand même le moment... vraiment le plus mémorable de mai 68.
La contre-manifestation, quoi, celle de... le retour un peu à la Révolution nationale, si je puis dire. Bien, en tout cas, Arnaud Bureau et Alexandre Franc, merci en tant qu'auteur de mai 1968, Histoire un printemps, d'avoir bien voulu se prêter au jeu de l'interview téléphonique alors que vous foncez mener une manifestation dans le Nord.
À tombeau ouvert.
Nous, on reste en zone libre, ça tombe bien. D'ailleurs, je crois que c'est préfacé par un agitateur prusse, Daniel Cohn-Bendit. C'est un A ou un E, je sais plus.
Voilà, tout à fait.
C'est un E. Ah bon, j'aurais cru. Enfin bon, en tout cas, merci beaucoup Daniel et Alexandre. On vous souhaite bonne route, bon vent.
Avec plaisir.
Et puis voilà, Thomas a peut-être quelque chose à rajouter.
Non, c'est pas Daniel, c'est Arnaud.
C'est Arnaud.
Oui, c'est pas.
Non, c'est Daniel, c'est Cohn-Bendit, c'est pas grave.
Voilà.
Ça se passait bien jusqu'à présent. La bourde à la fin qui casse tout, c'est génial.
Merci, en
merci
tout
beaucoup.
On est donc c'était en direct sur FMR. En tout cas, donc c'est un livre qui est sorti hier en librairie. Mai 68, Histoire d'un printemps. Alors le, il y a plein de revues adolescentes gauchisantes comme l'Express, Marianne, Télérama, Libération, Télé 7 jours qui parlent de mai 68, dont le Nouvel Observateur. Nouvel Observateur, journal propagandiste forcément par excellence. Il y a plein de bouquins qui sont sortis sur mai 68. Ils ont considéré que donc le livre d'Alexandre Bureau et Alexandre Franc, Arnaud Bureau et Alexandre Franc, est le meilleur bouquin concernant mai 68 qui vient de sortir. Donc félicitations pour eux s'ils ont s'ils se font adouber par la chienlit institutionnalisée. Voilà, et je reviens...
Nous ici en tout cas on n'a pas lu le bouquin encore, mais
Oui, non, mais on est dans un régime super présidentiel qui nous l'oblige sous peine d'excommunication de l'ORTFMR. Je rappelle quand même qu'on a mis de l'information qui nous souffle les informations en direct. Voilà. Du sport, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci de t'être présenté. Thomas, peut-être
oui.
on va peut-être changer de style. On avait deux BD, bon, je vais en parler rapidement. Koichiro Oshino sur une idée de Nobuyuki Anzai, Mar Omega. C'est un premier tome d'un shonen manga
qui
vient de sortir
shonen,
chez
oui.
Kana. C'est du shonen adolescent pur et dur, c'est l'histoire médiévale fantastique d'un jeune garçon qui se souvient des exploits phénoménales d'un garçon et de son bilboquet à marteau qui ont sauvé l'humanité il y a quelques années de gigantesques méchants. Et il retombe sur le fameux bilboquet à marteau.
Bilboquet.
Qui en fait est un artefact magique face à d'autres artefacts magiques qui sont bénéfiques. On les appelle les maltefacts. Bravo pour le jeu de mots de traduction. Et évidemment, il se trouve que non, tout le monde ne croyait qu'il n'avait pas une once de magie en lui, mais en fait, il est l'héritier arrière-arrière-petit-fils du plus gigantesque de tous les magiciens, etc. Mar Omega. Graphiquement, c'est hyper stylisé. Soyons clairs, si vous n'aimez pas des bandes dessinées, je vais dire, comme...
Si vous aimez pas Yu-Gi-Oh, si
Yu-Gi-Oh,
vous aimez pas,
voilà, c'était
si
exactement
vous,
ça.
Si vous aimez pas Dragon Quest, si vous aimez pas Lodos, eh ben voilà, vous aimerez pas ça.
Exactement. Après, peut-être que cela aura son succès. Étonnamment, je pense beaucoup moins de succès à ça qu'à Yu-Gi-Oh. Je ne sais pas pourquoi.
Pas les cartes dedans peut-être.
Il y a de l'hum. Voilà, c'est peut-être l'absence de produits dérivés, parce que tous les produits dérivés faciles à trimballer, c'est-à-dire les petits bijoux et tout ça, c'est que des maltefacts.
Ah.
Ça tombe mal. Alors que l'objet du bien par excellence, une espèce de boule avec un manche qui en fait est un nez puisque la boule parle, est un visage, et associé à une grande chaîne, à un marteau, sont gigantesques. Donc ça le fait pas. Commercialement, je ne sais pas, ce serait un peu difficile à rentrer dans le cartable. Et après, ben... Bon... Il y a l'idée, il y a toujours des idées très intéressantes. De ce côté-là, les Japonais sont très forts pour créer plein de séries de médiévales fantastiques avec des artefacts, avec un adolescent qui se retrouve être le champion du monde libre et tout ce que vous voulez.
Mais c'est un jeune garçon qui n'a pas encore exploité tout son potentiel.
Voilà, et qui se retrouve orphelin par la cause, puisqu'en fait toute la ville a été kidnappée par les méchants et qui vont s'en servir comme pouvoir. Il y a de la créativité derrière. C'est clair, c'est là-dessus où ils sont très forts. Après... Il y a plein d'idées, mais finalement, entre nous, on passe vite. Je pense que ça va marcher peut-être dans les cours d'école, donc je m'avance un peu trop vite. En fait, je dois être trop vieux.
C'est ça.
C'est ça. Mar Omega, tome 1 de Koichiro Oshino et sur une idée de Nobuyuki Anzai. Ça vient de sortir en France, chez Kana. Et un truc totalement coloré dans l'idée de mai 68, un truc hallucinant et complètement arty, c'est Danny Steve qui vient de sortir chez le Requin Marteau, Je t'aime. Alors c'est une histoire complètement onirique, avec des couleurs ultra pétards, où en fait ce sont des poupées nues qui parlent entre elles et qui sont dans un monde, un rêve enfantin. Il n'y a pas d'autre terme. Ça ne se raconte pas.
Mais les poupées en question, c'est pas Skydoll, c'est des petites...
Ah oui,
c'est juste pour dire, quand tu dis poupée nue, faut pas s'attendre à...
Ah non, ça a rien de sexuel ou quoi que ce soit. Loin de là, en fait, pour faire un résumé, il y a une poupée qui pleure de l'eau et elle menace de noyer le château où sont tous les jouets. C'est assez étonnant, c'est assez space. Graphiquement, c'est superbe. ça n'est absolument pas le genre de bouquin dans lequel on attend habituellement les requins marteaux, loin de là. Et pourtant, on est dans un univers complètement à part, créatif, agréable, je veux dire, vraiment étonnant à lire, et ça fait vraiment du bien à découvrir. Par contre, c'est clair, ça n'est pas pour les enfants, parce que c'est arty au possible. L'histoire, il faut la chercher plus d'une fois, elle est relativement courte. Après, je n'en sais rien, je ne suis pas puériculteur, je n'ai pas de gosse moi-même. Hein. Ah, les gosses, pour Capri, vote à gauche. Bah, Je t'aime est vraiment un hymne à l'amour totalement innocent. Danny Steve, là-dessus, a un graphisme étonnant et graphiquement important. C'est vraiment flashy sur les couleurs. C'est un bouquin là où on n'attend pas les requins marteaux. Et en tout cas, ben, ça a le mérite quand même de pouvoir se regarder. Un autre anniversaire, une autre commémoration, outre les 70 ans de Spirou qui ont lieu cette semaine, et il y a eu une nouvelle maquette de Spirou relancée par Frédéric Niffle, l'éditeur, c'est la Xème, hein, en une dizaine d'années, ça doit être la quatrième. Et d'un autre côté, donc le nouvel album de Spirou qui vient de sortir, un reboot aux origines de Spirou, parce que les premières aventures qu'on connaît de Spirou, à part les péchés de jeunesse, sont sorties en 46-47. Et ben, on a imaginé une aventure quand Spirou était groom à l'hôtel Moustique, ça se passe en 39. Et comme je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais en parler. C'est sorti cette semaine, justement, en album. D'un autre côté, il y a les 10 ans de Donjon, de Johan Svar et Lewis Trondheim, avec plein d'auteurs qui participent dans plein d'aventures parallèles. Et toujours dans l'univers médiéval fantastique, même si quand même le but du jeu, c'est faire un spécial mai 68, hein, attention, je le rappelle. Et ben, il y a Dofus Monster, par un ancien Toulousain qui s'appelle Gilles Harris, et qui est en dédicace tout à l'heure.
Et d'après ce que j'ai compris, ouais, c'est un ancien Toulousain, et néo-Toulousain, parce que je crois qu'il va revenir,
de la région. C'est l'ancien dessinateur des Ailes de Plomb, scénarisé par Christophe Gibelin, qui est une aventure, un polar d'espionnage qui se passe en 1958. Et graphiquement réaliste. Je suppose que ça doit être très différent de ce qu'il fait actuellement.
J'ai vu aussi qu'il avait fait, qu'il avait collaboré aux chansons de Serge Gainsbourg en BD, de Bobby Lapointe et Claude Nougaro. Ouais. Alors, Dofus Monster, tome 2, Le Dragon Cochon, donc par Gilles Harris, et c'est édité chez Ankama. Dans le monde d'Abakna, les cochons de lait se font massacrer, engloutir, exterminer. Mais non, c'est pas par un village gaulois, mais par des sacrieurs. Le rejeton de ces fameux sacrieurs, bah bizarrement, il aime pas le sang, c'est un comble, hein, puisque les sacrieurs, c'est une race qui s'auto-saigne pour se mettre en berserker, en fait. Il y a, parallèlement à ça, il y a une sadidette qui adore flâner dans la forêt, qui va rencontrer un vieil Osamodas, qui se balade également pour faire la sieste. Et lorsque le dieu des porcos, le dragon cochon, se met dans la tête de partir mettre les cochons à l'abri, tout ce petit monde va se rencontrer, et là, ça va bastonner. Alors évidemment, vous aurez noté les jeux de mots, donc Abakna, un vieil Osamodas, donc c'est à l'envers, ça fait sadomaso. Faut savoir que dans le monde d'Abakna, donc il y a les races, les Eniripsa, ce sont les guérisseurs, hein, Aspirine en l'envers, les Xelor, ce sont les maîtres du temps, des magiciens, Rolex, hein, en l'envers. Donc c'est que des jeux de mots comme ça, assez rigolo. Donc la série des Dofus Monsters, le concept c'est pour chaque tome s'attarde sur un monstre à détruire dans le jeu, puisqu'il faut rappeler aussi que c'est un MMORPG à la base, hein, Dofus. Donc le premier tome, il s'agissait du Shenmue que j'avais chroniqué ici, qui était vraiment sympa, et qui voyait d'ailleurs un arbre généreux se laisser corrompre par une pierre maléfique. Et là, cette fois, place au dragon cochon qui va essayer de mettre sa horde à l'abri. Alors, au départ, c'est en dialogue cochon, donc ça fait que des grouic-grouic. À un moment donné, comme dans un film...
J'ai cru que c'était des 1, 1.
comme dans un film de McTiernan, il va y avoir des sous-titres qui vont et des doublages qui vont remplacer donc les grouic. Alors, le trait et le scénario de Gilles Harris...
sont beaucoup moins accessibles que le Shenmue, qui était plus dans une optique un peu conte merveilleux par Crunchyroll. Alors il faut savoir, je vais passer la BD, je crois que c'est toi qui l'avais, on l'a passé à du sport aussi. Donc en fait, le trait très épais, très dense, avec beaucoup de noir, beaucoup de gris tramé. On a parfois du mal à distinguer qui est qui fait quoi, surtout quand il y a les personnages qui sont très petits dans le décor. Donc comme ce sont des scènes très épaisses, il faut vraiment distinguer parfois. Et on délaisse l'univers clair et léger du Shenmue pour s'enfoncer dans la noirceur des grottes et de la forêt nocturne. Alors c'est un tome beaucoup plus violent que le précédent. On a un peu plus de mal à entrer dans l'histoire puisque on a assisté à trois histoires en parallèle, et c'est un peu dur aussi de s'identifier à une horde de cochons. C'est pas très sexy les cochons, il faut dire. Mais quand même, c'est une histoire qui se lit assez vite, qui vaut le détour. Parce que, évidemment, dans le principe des Dofus et des Dofus Monsters, c'est des tomes à relire plusieurs fois pour apprécier les plusieurs niveaux de lecture. Il y a même une référence au tome 1 à travers un arbre désabusé qui parle de son ancien ami qui s'est laissé corrompre par la pierre maléfique. Donc c'est une BD vraiment qui vaut le coup d'œil. Il faut savoir que l'auteur Gilles Harris sera présent à Album Toulouse cet après-midi à partir de 15h. Donc c'est une séance dédicace spéciale Dofus, puisque outre Gilles Harris, il y a aussi Bretzner qui va dédicacer Dofus Arena et Crunchan, donc l'auteur du premier tome de Dofus Monster. Alors on rappelle les références, Dofus Monster c'est le tome de Le Dragon Cochon. Scénarisé et dessiné par Gilles Harris, c'est chez Ankama Edition, et lors de la convention Ankama qui a eu lieu il y a un mois ou deux, en exclusivité a été présenté le tome 3 qui est dessiné par Ancestral Z qui s'appelle Le Chevalier Noir, et dont le tome qui était dispo lors de cette convention est amputé des deux derniers chapitres, puis c'était un tome promo, mais à l'intérieur il y avait des autocollants sympas.
Gilles Harris, Dofus Monster, tome de Le Dragon Cochon, c'est chez Ankama Edition. Alors dédicace donc tout à l'heure
album à partir de 15h.
Voilà, et puis on ira tanner le cuir à Album pour qu'ils reçoivent les deux gauchistes là, Arnaud Bureau et Alexandre Franc, puisqu'ils font pas de séance dédicace au sud de la ligne de démarcation entre la zone occupée et la zone libre. Voilà. Vous savez ce que j'en pense, moi, de mes 68 et des jeunes?
Du mal.
Mais 68, ça fait 40 ans quand même, c'est plus des jeunes, c'est des vieux. Mais on a perdu un immense humoriste éditorialiste de droite il y a 20 ans, exactement. Et à mi-chemin entre maintenant et mai 68. Vous savez ce qu'il en pensait des jeunes ?
Wah wah, wah wah wah. Wah 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 wah.
Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes ? Lançait l'autre soir Jack Lang, cette frétillante endive frisée de la culture en cave, à l'intention de je ne sais plus quelle poire blette de la nouvelle sénilité parlementaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes ? Depuis 30 ans, la jeunesse, c'est-à-dire la frange la plus totalement parasitaire de la population, bénéficie sous nos climats d'une dévotion frileuse qui confine à la bigoterie. Malheur à celui qui n'a rien fait pour les jeunes, c'est le péché suprême et la marque satanique de la pédophobie est sur lui. Au fil des décennies, le mot « jeune » s'est imposé comme le sésame qui ouvre les voies de la bonne conscience universelle. Le mot « vieux » fait honte, au point que les cuistres humanistes qui portent la bonne parole dans les ministères l'ont remplacé par le ridicule « personne âgée », comme si ces empaffés de cabinet avaient le mépris des rides de leur père et mère. Mais les jeunes ne sont pas devenus des personnes non âgées, ah non. Les jeunes sont restés les jeunes. Oh, le joli mot! Vous n'avez rien contre les jeunes? Version à peine édulcorée du répugnant « tapas en balle », c'est la phrase clé que nous balance à la figure de molle guape en queue de puberté pour tenter de vous escroquer d'une revue bidon entièrement peinte avec les genoux par de jeunes infirmes. Je veux dire handicapés, que les bancals m'excusent. Pardon, monsieur, vous n'avez rien contre les jeunes? Si, j'ai! Et c'est pas nouveau. Je n'ai jamais aimé les jeunes. Quand j'étais petit à la maternelle, les jeunes pour moi c'était des vieux poilus avec des voix graves et des grandes mains sales sans courage pour nous casser la gueule en douce à la récré. Aujourd'hui, à l'âge mûr, qui est par définition l'âge qui précède l'âge pourri, les jeunes me sont encore plus odieux, leurs bubons d'acné me dégoûtent comme jamais. Leur chambre pue le pied confiné et l'incontinence pollueuse de leurs petites détresses orgasmiques. Et quand ils baisent les connards, c'est bruyamment et à côté des trous. Leur servilité sans faille aux consternantes musiques mornées que leur imposent les marchands de vinyle n'a d'égal que leur soumission béate au port des plus grotesques uniformes où les soumettent les maquignons de la fripe. Il faut remonter à l'Allemagne des années 30 pour retrouver chez des boutonneux un tel engouement collectif pour la veste à brandebourgs et le rythme des grosses caisses. Et comment ne pas claquer ses têtes à claques devant l'irréelle sérénité de la nullité intello-culturelle qui les nimbe? Et s'il n'était que nul, inculte et creux, par la grâce d'un quart de siècle de crétinisme marxiste scolaire renforcé par autant de diarrhéiques d'émissions parentales? Passe encore, mais le pire est qu'ils sont fiers de leur obscurantisme, ces minables. Ils sont fiers d'être cons.
Jean Jaurès, c'est une rue, quoi,
me disait récemment l'étron bachelier d'une voisine, laquelle et son mari, par parenthèse, acceptent de coucher par terre chez eux les soirs où leur crétin souhaite trombiner sa copine de caleçon dans le lit conjugal. Ceci d'ailleurs expliquant cela, il n'y a qu'un A de résignation entre défection et défécation. Oui, j'entends déjà les commentaires de la délanceautophilie de bonne mise actuellement. Oui, tu dis ça parce que t'es en colère, en réalité ta propre jeunesse est morte et tu jalouses la leur qui vit, qui vibre et qui a les abdominaux plats, la police et même élastique, selon Alain Chiffre, jeunologue surdoué au Nouvel Observateur. Eh ben ça c'est faux et je m'insurge, j'affirme que je haïssais plus encore la jeunesse quand j'étais jeune moi-même. J'ai plus vomi la période yéyé analphabète de mes 20 ans que je ne conchis vos années lamentables de rock abattardi. La jeunesse, toutes les jeunesses, sont le temps kafkaïen, où la larve humiliée, couchée sur le dos, n'a pas plus de raison de ramener sa fraise que de chance de se remettre toute seule sur ses pattes. L'humanité est un cafard, la jeunesse est son ver blanc. Autant que la vôtre, je renie la mienne, depuis que je l'ai vue s'échouer dans la bouffonnerie 68arde où de crapoteux universitaires grisonnants, au péril de leur prostate, grimpaient sur des estrades à théâtreux pour singer les pitreries maoïstes de leurs élèves, dont les plus impétueux sont maintenant chefs de choucroute à Carrefour. Mais vous, jeunes frais du jour, qui ne rêvez plus que de fric, de carrière et de retraite anticipée, reconnaissez au moins à ces pisseux d'hier le mérite d'avoir eu la générosité de croire à des lendemains chez Guevaresque sur d'irrésistibles chevaux sauvages.
Pierre Desproges, L'Éternel, extrait de son abrégé, c'est une intégrale en 12 CD, je crois me souvenir, c'est Chroniques de la haine ordinaire, non aux jeunes, une coédition Lina et Tôt ou tard, mais moi je m'en lasse pas Desproges, parce que au moins à l'époque, on savait faire rire, hein, et pas comme les humours comme Bigard lui il est de droite peut-être, mais c'est droite populaire, bah... Enfin bon, en attendant, de suite... Arrêtons de suite la politique et parlons de quelque chose qui est forcément, on va dire, grand ouvert, plus libéral, plus innocent. Le cinéma. Le cinéma, après tout, c'est là que pour distraire. N'oublie pas, pirater un film, c'est mal. Regarder un DVD, c'est mal. En parler, c'est mal. Ça empêche les autres d'aller les voir. Surtout si c'est des merdes. Oui, je fais maintenant les petits messages sanitaires.
Ok. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la trilogie Jason Bourne.
Attention, ceci est un texte moins 10.
Des trucs que je comprends pas aujourd'hui.
On va avoir des emmerdes avec le CSA. Déjà qu'on n'est pas sûr pour Tintin. Enfin bon, voilà.
Bon, alors, donc arrive en coffret 5 DVD Jason Bourne. Enfin, est arrivé déjà, mais il m'a fallu du temps pour la regarder. Chez Universal. Alors, il s'agit de films réalisés par Doug Liman pour le premier. Et les deux derniers sont réalisés par Paul Greengrass. Avec du casting poids lourd, Matt Damon, Franca Potente, Joan Allen, Clive Owen, Carl Urban, Julia Stiles, Chris Cooper, Brian Cox, Albert Finney. Voilà, c'est du lourd. Le tueur amnésique le plus célèbre du cinéma est poursuivi par les huiles du programme Treadstone. Un milliardaire russe tente de le zigouiller, mais c'est sa copine qui meurt. Les enculés. Pourchassé par les polices du monde entier, muni d'une multitude de passeports de toute nationalité, fort de ses seuls réflexes au combat multilingue, capable de transformer n'importe quoi, quel objet en arme, et jamais aidé par la technologie, Bourne fait passer un sale quart d'heure à quiconque tentant de lui barrer la route. Donc vous l'aurez compris, c'est l'antithèse de James Bond.
oublié James Bond. Maintenant, c'est Jason Bourne, l'avènement de...
Attends, Jason, agent secret, amnésique et tout. Dis donc, ce serait pas un vulgaire pompage de Jean Van Hamme, ça?
Ah merde, ils ont pompé 13, les salauds.
Les enfoirés, salauds d'Américains. Sous culture.
Alors, il s'agit de la trilogie la plus pertinente du cinéma d'action des 20 dernières années. Hein. Pour moi, trois films qui épousent la quête et les automatismes de Bourne, hein, puisque...
Et il... Taxi.
Ah non, oui,
non,
ben,
non, Taxi, non. C'est 4.
Voilà, c'est pas une trilogie.
Une tétralogie.
Alors, hein.
la seconde trilogie, c'est l'humour.
Alors, le maître mot, bah, c'est l'immédiateté. Hein. Là, je vais être un peu cucu. Voilà, journaliste, cinéma, tout ça, on va employer des mots savants. Alors, Jason Bourne, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. Donc, c'est la mise en scène, en fait, s'attache à ça. Donc, on a toujours. C'est vraiment un souci de suivre, de coller au basque Jason Bourne, immédiateté, pas de flashback. Ou alors, les flashbacks, ce sont des résidus de mémoire qui sont très particuliers. Pas de séquence au ralenti qui arrête la narration et l'action. Non, c'est toujours du brut de décoffrage, du 100% direct. C'est ça justement qui fait le charme de la trilogie, hein, puisque les scènes d'action sont très. C'est de là qu'elles tirent aussi un petit peu leur violence et leur rapidité aussi. On peut dire que le 3 est un remake des deux premiers films, puisqu'il utilise les structures des deux premiers, puisque dans le premier, bon, il rencontre la nana, tout ça, et la première poursuite. Le 2, c'est vraiment un prolongement du premier. Alors j'avais parlé justement de cette astuce scénaristique, puisque la dernière scène du 2 chronologiquement se situe au milieu du 3. C'est quand même aussi un parti pris assez intéressant. Le 3, ben justement, ce qu'il y a d'intéressant, je commençais à en parler tout à l'heure, c'est que en fait, comme c'est un remake un peu déguisé des deux premiers, on s'attache justement aux réflexes conditionnés par ces fameux agents secrets pour aborder n'importe quelle scène d'action, que ce soit un combat à main nue, que ce soit une poursuite en voiture. Ce qui fait que dans le 2, l'astuce qui permet à Jason Bourne de se sortir in extremis d'une course poursuite en Russie, cette même astuce employée par lui va être utilisée par son adversaire dans le 3, puisqu'il a eu la même formation. Et justement, Jason Bourne, avec son expérience, va réussir à contrecarrer ça en utilisant un certain réflexe que n'avait pas eu l'adversaire du 2. Et c'est tout à fait un renversement de situation comme ça. Les scènes d'action, tu te dis, mais on a vu la même dans le 2. Mais justement, c'est ça aussi qui participe, qui est vraiment.
C'était une revue critique, hein, de l'enseignement de la CIA.
Ouais, bon, là-dedans, la CIA, c'est vraiment des enculés. Voilà,
attends, c'est sauveur du monde libre, attention.
Oui, où j'en étais, moi. Voilà. Donc la mise en scène, voilà, le Paul Greengrass qu'on apprend justement dans la version commentée dans les DVD, c'est justement il s'attache à ça, c'est-à-dire que il fuit, il renie tout ce qui est et isoler le spectateur de l'action. Il faut vraiment plonger le spectateur caméra à l'épaule, puisque même dans les scènes de dialogue pur et dur, la caméra est tout le temps en mouvement. Et puis justement, il parle aussi de James Bond dans ses films. Il dit, alors voilà, James Bond, il ne saurait pas la technologie, il a des montres, il a des aimants, il a une bagnole et tout. Jason Bourne, peanuts, il a juste son t-shirt et sa veste. Et voilà, basta. Donc on le voit en train de se battre avec un magazine pour essayer de contrer un mec qui a un putain de couteau, etc. Donc il utilise aussi pas mal la situation géographique, les lieux, les appartements dans lesquels il se trouve. Et justement, dans la version commentée, on apprend pas mal d'éléments intéressants, puisque on s'aperçoit, par exemple, dans le 2, Jason Bourne donne rendez-vous à une nana et il sait qu'il va être pisté, observé par les gens de la CIA, et il fait exprès de prendre une grande place à Berlin pendant une manifestation.
Et oui, d'ailleurs, de gauchistes français.
Je sais plus d'ailleurs, ouais.
C'est drôle logement, je crois. Je sais plus.
Et justement, au début, quand il arrive à Berlin, à la gare.
Ouais, il me semble que c'est plutôt contre une expulsion, un truc comme ça, quoi. La manif qu'il y a, quoi, au milieu du 1, là.
Moi, je parle dans le 2, mais peut-être dans le 1, il y a aussi une manif, ouais.
Ouais, si.
Et justement, ce qui permet à Jason Bourne de donner rendez-vous à la nana au nez à la barre de la CIA en pleine manifestation, c'est parce qu'avant, quand il est arrivé à la gare de Berlin, on a vu des affiches, des appels à la manifestation en allemand. Alors le mec, Paul Greengrass, réalisateur, insiste sur ça, vous l'avez peut-être pas vu, mais justement, on essaie de placer, et c'est vraiment un indice de la pertinence toujours des choix de la mise en scène. Dans les autres bonus du DVD, alors on va passer sur les Sempiternels, c'était trop bien de tourner avec lui, les interprètes, ils sont trop cool et tout. Alors ça, bon, voilà, on va passer devant ça. Il y a quelques trucs assez sympas sur les lieux de tournage. Ils sont allés à Madrid, à Paris, à Londres, etc. Donc ils disaient, ils montrent aussi tout le problème de logistique pour bloquer une rue à New York. Ils montrent que c'est pas simple. À Tanger, ils ont été obligés de tourner dans le souk, en plein milieu de la foule. Et puis ils disaient, ouais, on comprend les gens en furax là-bas. Donc allez, filme ça, alors on voit les gens qui commencent à s'agiter derrière les cordons de l'équipe de prod. Ouais, parce que bon, les mecs ils veulent vaquer à leurs occupations, tout ça c'est normal. Et alors c'est bon, voilà, petite faute de goût, le seul endroit où il y a une musique à la con, c'est évidemment à Paris avec l'air d'accordéon, alors que toutes les autres capitales européennes sont modernes, ils utilisent la musique de Jason Bourne. Bon, on va passer là-dessus. Alors par contre, les bonus qui tuent, alors il y a la préparation au combat, puisqu'on voit que c'est un art philippin qui a servi pour faire la baston. On voit que l'adversaire de Bourne dans le 3, ben, le mec il fait une démonstration de capoeira à Tanger, juste pour la caméra du making-of. Le mec, tu vois que c'est pas un manche, hein. Et surtout, on voit Jason Bourne se démarque aussi par ses scènes de poursuite en voiture qui sont assez démentielles. Démentielles pourquoi ? Parce que il y a un coordinateur qui est un putain de bon dans son métier et que aussi correctement mis en scène. Et là, tu apprends tout de l'entraînement de Matt Damon pour faire les 370 degrés avec la bagnole sur un parking qui sert à l'entraînement. Tu vois vraiment que c'est lui qui fait ça. Tu vois aussi la voiture technique qui permet de tourner un maximum de plan autour du visage de Matt Damon à l'intérieur d'une poursuite, puisqu'ils appellent ça la Go Mobile. C'est une espèce de gros fourgon qui
c'est une plateforme en fait.
Voilà, qui est une plateforme et la caméra peut aller n'importe où en fait pendant la poursuite. Ils montrent ça sous toutes les coutures. Il y a aussi c'est toutes les techniques utilisées par les cascadeurs automobiles. Alors, soit le mec est au pied de Matt Damon, puisqu'il est, il est masqué pour qu'on voit que le visage de Matt Damon pour les plans larges, pour pas qu'on voit, pour qu'on voit qu'il y ait Matt Damon au volant, mais qu'on voit toute la voiture. Si on voit pas toute la voiture, c'est un mec qui est sur le toit de la bagnole en train de piloter. Alors on le voit justement, ils sont en train de tourner l'hiver à New York, donc le mec il a une couverture sur la gueule et tout. On voit aussi toutes les techniques. Alors on a la Go Mobile, le trucage aussi numérique, puisqu'à un moment donné Matt Damon se prend un shoot sur la portière. Donc ça c'est un multiplan, hein, puisque c'est un plan de la rue qu'ils ont collé derrière et tout. On voit, c'est vraiment un arsenal de tout ce qu'il faut faire aussi dans les mises en scène de scène de poursuite. À un moment donné, il y a la voiture qui fait une figure de skate sur un parapet, voilà. Donc tu vois tout dans les détails. C'est vraiment très instructif sur ce côté technique. Alors le mec coordinateur seconde équipe qui orchestre toutes ces scènes d'action, toutes ces scènes de poursuite en voiture, c'est Dan Bradley, puisqu'on va le nommer, puisqu'il est c'est quand même un peu la star des bonus de ces DVD. Et c'est vraiment super impressionnant. Il y a un cinquième DVD que je n'ai pas eu le temps de voir encore, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. On va juste reprocher peut-être, comme il y a 5 DVD, il y a quelques redondances, puisqu'il y a des bonus pour les poursuites en voiture dans le 2 et le 3 qui se répercutent aussi dans un DVD qui est consacré aussi à ces scènes de poursuite. Bon, il y a quelques propos et quelques images aussi qui sont redondantes, mais qui sont aussi complémentaires. Le commentaire audio de Paul Greengrass t'en apprend aussi, même s'il s'attarde aussi pas mal sur la qualité d'interprétation. Bon, évidemment, s'il a pris les acteurs, c'est parce qu'ils sont bons, hein, on le sait. En plus, avec le casting, Joanne Allen, Brian Cox, tout ça, on sait très bien que de quoi ils sont capables. On n'avait pas besoin qu'ils nous le rappellent. Bon, en plus, c'est juste pour dire des banalités. Ouais, lui, il est trop intensif. Lui, il est plus intérieur. Et lui, machin. Voilà. Bon, sinon c'était quand même un coffret à posséder, puisque je vois pas d'autres trilogies d'action ou même de séries de films d'action qui soient de ce niveau là. Moi personnellement, je ne peux plus regarder James Bond après avoir vu la trilogie Jason Bourne. C'est pour ça que j'attends moyennement le prochain Quantum of Solace avec
ils viennent de
Daniel
noyer
Craig.
Une voiture, hein.
Ouais, bon. Voilà, donc on rappelle les références. Donc c'est chez Universal, donc la trilogie Jason Bourne en coffret 5 DVD. Donc c'est à vous procurer d'urgence pour tous les amateurs de thrillers, de bang bang, de gunfight, de voilà, des trucs qui va à 100 à l'heure avec voilà une interprétation irréprochable et de bonnes séquences d'adrénaline.
12h48 minutes et 40 secondes sur la poubelle des radios atomiques. Bientôt c'est du sport, mais je rappelle, on est dans les années 60, chers amis. We'll be right back. J'ai une petite surprise pour du sport.
Ah.
Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux, chantons l'essor de la jeunesse, qui se moquant de la gloire, vole vers la vie.
Victoire. La ronde des sports de André Dassary, c'était celui qui, c'était en plus le générique sur France Inter jusqu'en 68 des sports. André Dassary qu'on connaît pour son pour une autre interprétation aussi.
État français, radiodiffusion nationale.
Oui, non, donc Maréchal, nous voilà, c'était lui qui le chantait, voilà. Duce.
Oui, encore des BD.
Zappons sur l'ORTF ou non, BD encore.
Ouais, BD encore avec...
Importé.
Il faut le signaler, Satyricon. Alors,
je l'ai déjà signalé il y a deux semaines.
Ouais, mais bon, il faut le répéter. C'est le dernier numéro sorti, donc achetez-le, allez-y, il n'y en aura pas d'autres d'ici pas mal de temps. Donc,
ils nous font ça régulièrement, mais c'est gauchistes, non, ils sont financés derrière par Moscou
tu
et
crois
tout ça.
Ouais, ah, tu crois Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, dans un autre registre, enfin si, il y a également de la bande dessinée et tout, c'est le numéro 3.
Oh, ça brille.
Ah ouais, en plus, t'as vu, ça brille. De cool. Comic Box hors série, et comme vous savez tous, bien sûr, avec la
30 avril
promo, que le 30 avril, mercredi prochain, sort sur les écrans. Iron Man.
Ça c'est un héros militariste, voilà. Interventionniste, c'est bien,
alcoolo,
il est dans l'air, il est
alcoolo
bouche.
Et tout.
Ex-alcoolo.
Spécial Iron Man la semaine prochaine sur
Alcoolo repenti comme notre président du monde.
Un comic box spécial Iron Man, il n'y a pas que Iron Man. Alors bien sûr, il y a l'historique d'Iron Man, toujours très complet, impeccable. Il y a les entretiens avec des types qu'on connaît quand même un petit peu, celui avec Jon Favreau, réalisateur du film, Adi Granoff, qui est le mec qui est à l'origine de la bande dessinée sur Iron Man, qui a inspiré Jon Favreau dans son approche graphique, ouais, dans son approche visuelle du film. Hein. D'ailleurs, ils ont collaboré pleinement à la réalisation de ce film. Il y a également,
justement, ouais. C'est ce qu'il nous a dit dans notre interview que nous diffuserons la semaine prochaine.
Ah, bah, voilà. Tu vois. Et il y a également un entretien avec Kenneth Johnson. Qui c'est celui-là?
V.
Ah oui, V. Et encore
merde.
Alien Nation. Et encore Hulk, bien sûr. Il y a également des doubles pages très intéressantes, hein, parce que bon, ça parle également au niveau articles généraux sur les robots. Il y a un article sur le cybersexe dans les comics,
ouais.
sur les machines de guerre, et une petite rubrique qui s'appelle Technocomics, qui s'appelle Le progrès vu par les créateurs. Et comme créateur, il y a Jack Kirby, il y a Frank Miller, il y a Alan Moore et Grant Morrison. Alors bon, ça va, ça vaut quand même le coup. Plus la BD, comme d'habitude.
Juste un petit mot à propos d'Alan Moore, là, dont le dernier bouquin là vient de sortir. Il est en interview sur Actua BD. C'est une Alan Moore est pas très fréquent.
Sur Actua BD ?
Sur Actua BD, ouais.
Ah bon ? Ah, j'ai zappé, tiens, il faudrait aller voir.
Il est pas très fréquent justement, donc c'est l'occasion ou jamais.
Hein. Moi j'avais un petit mot sur Frank Miller, puisqu'il est en train de réaliser en ce moment l'adaptation du Spirit de Will Eisner, et avec le premier teaser qui est dispo sur le net, qui fait pas trop, enfin moi qui m'a pas fait un bon effet, parce que on croit vraiment du Sin City, la façon dont le Spirit bouge, pas tip top. Par contre le truc, mais le buzz de chez Buzz énorme de sa mère, c'est qu'il y a Eva Mendes dedans, les images, voilà, tu
elle dessine,
bref. Non, je n'irai pas plus, du sport m'a compris.
Ouais, bien sûr. la BD inédite sortie dans le comic box, c'est X-Men Mythos, hein, avec un scénario de Paul Jenkins et des dessins de Paolo Rivera. Alors pour ma part, je suis pas tellement fan, hein, mais c'est vrai que graphiquement c'est quand même assez intéressant, on va dire. Mais bon, moi je suis pas trop fan, hein, de toute façon, quoi. Mais ça vaut le coup, 32 pages, hein, de BD quand même, ça le fait quand même, petite histoire courte comme ça, qui est très sympathique. Alors tout ça, donc,
c'est Magneto, ça ?
Ben oui, c'est Magneto. donc tout ça dans le hors-série de Comic Box, spécial dédicace à Iron Man. À présent, ouais, rentre dans un autre monde.
Ah, vas-y.
On parlait de mai 68.
Ah, oh, encore une revue de gauche.
Une revue de gauche, Télécable Satellite Hebdo, qui titre sur mai 68 avec les quatre tronches de cake qui symbolise l'esprit mai 68 à la télé. Et d'ailleurs, ils ont fait un sondage mai 68, hein, Télécable Satellite Hebdo, la chaîne de télé Vivolta et la radio Nostalgie. On
voulait... Ah, c'est vraiment un truc de vieux. Hein.
Hein, ouais. Alors, trois questions. La première, selon vous, parmi ces animateurs de télé, quel est celui qui correspond aujourd'hui le plus à l'esprit mai 68? Qui c'est qui gagne, à ton avis?
Hein, Stéphane Bern.
Ardisson. Bern n'est même pas dans le classement. Ardisson, tu as tout à fait raison, avec 20%. Devant. Alors là, c'est
j'ai vu
grave.
Les quatre tranches, donc il y a Patrick Sébastien.
Patrick Sébastien en 2, Philippe Gislas en 3 et Laurent Ruquier en 4. Alors, ils se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche, à 17%.
Je vois pas le rapport.
Et 14%. Non, mais laisse tomber, c'est pas la peine, tu laisses tomber. Deuxième question, de manière générale, quel est selon vous le chanteur ou la chanteuse qui symbolise le mieux mai 68? Alors là, c'est assez facile quand même.
Gainsbourg.
Bah oui, bien sûr. Devant Antoine et Michel Polnareff. Ah bah si, Polnareff.
Attention, hein, je rappelle qu'en je tiens à signaler que à partir du mois prochain, donc en mai, toutes les illustrations musicales du supplément week-end, c'est que des disques sortis en mai 68.
Oula. Ah oui. Je vois tout ce que
ça
tu
va être beau,
dire.
Hein. Donc il y aura et Antoine.
Il y a également la question bateau à la con, mais enfin bon, ça vaut quand même le coup. Parmi les slogans suivants, selon vous, lequel symbolise le mieux ce qu'a été mai 68? Et c'est il est interdit d'interdire qui a obtenu 45% quand même dans ce sondage, loin devant Sous les pavés la plage avec ses magnifiques 16% ou le petit 12% de CRS-SS. Donc tout ça dans le télécable. Sinon, mai 68, je vous le fais après. Tout d'abord, sur Virgin 17, à partir de lundi prochain, un nouvel animé tiré d'un manga de Eiichiro Oda, One Piece. Ça te dit quelque chose?
Ah oui.
C'est pas un nouvel.
Monkey D. Luffy et sa bande de pirates à la recherche du fabuleux trésor de Gold Roger, le One Piece. Ouais, tout ça c'est sur Virgin 17.
C'était déjà diffusé sur NT1, il me semble.
Ah non.
Au moins sur Game One, ça j'en suis sûr.
Peut-être sur Game One, mais pas sur NT1. Virgin 17, donc tous les jours de lundi à vendredi à 17h et ils en ont acheté.
C'est encore
une
du tapée. Chenel, hein.
Ils en ont, ils en ont acheté une tapée. Hein. Ils ont plus de 100 épisodes
en stock.
Vous,
ouais.
Donc, allez-y. Alors là. Là, t'aurais dû me foutre un truc, tu vois, un break avec un changement et puis une intro, genre avec un piano un petit peu mélancolique comme ça, tu vois, quoi. T'as pas ça?
On est en live, hein, je rappelle. Ouais, le problème, c'est qu'il faut chercher dans le...
Dans la banque de données.
Voilà.
De database, comme ils disent.
Tu voulais du piano, t'en as?
Oh là là. C'est sur TF1 et ça commence à partir de lundi 9h20 du matin. Et il aura fallu attendre 45 ans pour avoir enfin sur une chaîne française la diffusion de ce soap qui est l'ancêtre de tous les soaps. Laissez tomber Amour, Gloire et Beauté. Laissez tomber les soaps traditionnels que vous connaissez.
Les Feux de l'Amour.
Les Feux de l'Amour et tout ça. Laissez tomber General Hospital, Alliance et Trahison débarquent sur TF1. Lundi à 9h20. General Hospital, dont TF1 a acquis les épisodes à partir de 2003, donc on verra pas les très très vieux, hein, qu'il a de 63 crois, et d'avant. Hein,
je crois 70. Qu'on voit dans Urgence, on voit un extrait, non?
Ben bien sûr.
Ouais, il me semblait aussi.
Et dans Doctor House aussi, il regarde General Hospital quand il regarde pas les courses de Monster Truck ou de lutte libre, tu vois, il regarde General Hospital, quoi. Alors General Hospital, ça a été diffusé pour la première fois en 63 sur la chaîne ABC, puis ça a quand même c'est comme dans tous les soaps, hein, ça a quand même révélé, ça a pas révélé, moi je veux dire, c'est là que pas mal d'acteurs devenus célèbres par la suite ont commencé, hein, Eva Longoria en ce moment, vous pouvez la voir dans Amour, Gloire et Beauté, hein, de toute façon, hein, c'est
En salope.
C'est sa série. Oh, en salope, elle est très bonne, hein, elle est vraiment.
Non, attends,
Très bonne en salope, c'est-à-dire actrice bonne, voilà, d'accord. General Hospital qui a donc révélé Mark Hamill en 72, Richard Dean Anderson, MacGyver en 76, Demi Moore en 83, et ouais, et je cite que parmi les plus connus. Donc c'est lundi, à partir de lundi sur TF1, 9h20 du matin, et donc tous les jours, hein, sur la même case horaire, sauf le mercredi, où c'est la case horaire pour les petits. Excusez-moi. Ce soir sur Arte, One Shot Note, l'émission de Manu Katché et Alice Tumler, avec son lot d'invités, c'est à partir de 22h40. Alors il y a Camille, il y a John Garbarek, ça vaut le coup. King Fink, The Heavy, ça c'est aussi pas mal. Mosley et Ben's Brother. Tout ça donc dans cette émission musicale, donc qui est assez intéressante, animée par Manu Katché, One Shot Note sur Arte ce soir à 22h40. Sinon. C'est une rediffusion, mais ça vaut le coup de la voir. Si vous l'avez pas vu, de toute façon, c'était passé tellement inaperçu que ça prouve que le bon goût des fois, ça, ou le mauvais goût, c'est, prenez-le comme vous voulez, ça arrive pas à dégouliner suffisamment. C'est les Gérards de la télévision 2007 qui avait été diffusé, je crois en février ou en janvier, donc de cette même année, par la chaîne Paris Première. C'est réalisé par Frédéric Royer, Arnaud Demanche et Stéphane Rose. Et en fait, c'est tout simplement une remise de prix qui concerne 15 catégories de la télé, mais complètement invraisemblables, l'émission où l'animatrice s'appelle Flavie, ou l'émission où au bout de 10 minutes tu demandes ce que tu fous devant ce programme, enfin que des trucs comme ça. Et donc
c'est en hommage d'ailleurs au membre le plus éminent de la famille Depardieu, hein, les Gérards.
Ouais, entre autres, quoi. Mais
parce qu'il y a un prix de la famille, il y a un prix réservé à la famille Depardieu, enfin, des trucs
ouais,
comme
ouais,
ça.
Ouais, mais enfin bon, c'est complètement délirant, ça vaut le coup, quoi. Il y a des trucs complètement improbables.
Le prix est un.
Un parpaing doré.
Oui, à voilà.
Un parpaing doré, c'est le prix qu'ils reçoivent. Donc, et il y a même des animateurs. Il y a même un animateur relativement connu qui a joué le jeu et qui allait chercher son prix. Parce qu'il faut dire que certains prix sont pas franchement gratifiants. Donc,
c'était Nikos
Non, c'était pas Nikos. Je crois que c'est Ondelat, il me semble. Christophe Ondelat, quoi. Je crois. Et aller chercher son prix en direct et tout. Enfin, c'était assez rigolo. Ça vaut le coup, donc c'est rediffusé ce soir sur Paris Première à partir de 23h20. Sinon, lundi, téléfilm sur TF1 à partir de 20h50, Papillon Noir, un thriller psychologique de Christian Faure, qui a obtenu d'ailleurs le prix de la réalisation au dernier festival de Luchon pour ce téléfilm Papillon Noir, avec dans les rôles principaux Eric Cantona, maléfique, Stéphane Freys, inquiétant, André Pervern, Hélène de Fougerolles et Philippe Mongenot. Et c'est bien sûr le téléfilm qui est diffusé juste avant les 3 épisodes de
New York
Jardin Secret.
Oh merde.
On est lundi soir. La saison 2. Alors comme ils ont vachement mal découpé leur programmation, on va se retrouver avec les 3 presque derniers épisodes de la saison 2. Il va manquer le dernier. Qui sera diffusé lundi prochain, comme ça, en 4
sera,
vidéos,
qui sera envoyé.
Peut-être pas,
non, il sera envoyé en même temps que la saison 3, comme ça on n'aura pas à attendre.
Peut-être.
On sera pas
peut-être
en condition.
Alors, Jardin Secret, donc lundi à 22h40, le premier épisode, c'est le 5e de la saison 2, Clair Obscur. Martin et Cheryl ont accepté de se laisser filmer dans leur quotidien, mais Martin peine à gérer cette situation. Dans le numéro 6, la crise de la quarantaine, Greta, la mère de Martin, s'installe pour quelque temps chez les Morero, malgré le mécontentement de Cheryl. Et dans le 7e épisode de la saison 2, Ne plus souffrir seul, Claire a deviné l'identité du père de l'enfant de Cheryl. Il s'agit de Tom et non pas de Martin. Mais je vous l'avais déjà dit la dernière fois, de toute façon, quoi, vous le saviez. C'est Jardin Secret, donc lundi soir à 22h40. Alors, c'est pas encore mai, et donc il n'y a pas encore beaucoup d'émissions, machin, truc bidule sur mai 68. Il y en a quand même un certain nombre. Mardi prochain sur Vivolta à 20h45 dans l'émission Gildas & Co, qui fête sa 100e, déjà 100 émissions pour Gildas. et sa bande de enfin ils essaient de refaire un Nulle Part Ailleurs, mais
un Nulle Part Ailleurs en vieux.
Non mais c'est-à-dire que c'est marrant parce que bon, il y a un mélange entre les animateurs. Il y a Ferniaud qui vient de l'équipe de l'Émergie, où t'as une autre genre de symbiose, tu vois, c'est la symbiose du matin entre les différents animateurs comme
un
ça.
Un grand coup de claque.
Ouais.
Et donc
c'est un petit peu transposé et mélangé, habilement mélangé, quoi. Donc à l'esprit Canal, mais l'esprit Canal Nulle Part Ailleurs, de la première époque, hein, pas celui qui est un peu viré là maintenant, quoi, bouffonnerie et compagnie. Donc Gilda Sanko. Et la centième, donc, de mardi prochain, s'appelle 68 chante encore. Mercredi prochain sur Arte, le premier documentaire à 20h45 dans les mercredis de l'histoire, c'est 68 années zéro. Et c'est un documentaire relatant l'histoire de 6 Européens qui racontent justement leur mai 68. Et suivi d'un documentaire qui peut s'avérer intéressant, hein, je pense à toi Xavier, à 22h45, ça s'appelle Tsingtao, une ville allemande en Chine. Car il faut savoir qu'à la fin du début du XXe siècle, en fait, c'est une ville côtière au nord-est, hein, Tsingtao, et donc c'est un petit peu occupé par les Allemands à un certain moment, et ils en ont profité pour installer une brasserie.
Voilà, consommer avec modération, j'allais dire.
Et c'est devenu une bière chinoise très connue, on va dire, tout simplement.
Je rappelle, l'alcool est à consommer avec modération, qu'on ne fait pas la publicité pour l'alcool, et qu'il faut citer au moins les marques Cronenbourg et Wolfenstein.
Non, c'est sur Arte, donc après 68 années zéro à 22h45, Tsingtao, une ville allemande en Chine, sur Arte. Donc, jeudi prochain sur France 5, à 20h45, Wolinski ne pense qu'à ça. Et donc,
à quoi
on demande. Et comme c'est un documentaire réalisé par Véronique Jacquinet, on peut se dire, ah ah, pas mal. Sur Arte, jeudi prochain également à 21h, Carnet de voyage. Pas l'émission sur la 5, mais c'est sur Arte. Donc c'est le film de Walter Salles de 2004, la jeunesse de Che Guevara, avec Garcia Bernal dans le rôle principal, suivi du documentaire à 22h55, Che Guevara, mort et légende d'un révolutionnaire. Ouais. Et vendredi également sur Direct 8, dans l'émission 88 minutes, qui a lieu à partir de 22h20, Que reste-t-il de mai 68? Un petit débat avec Arlette Laguiller, Manuel Valls et Patrick Mahé.
Que des vieux, quoi.
Ouais, mais eux, au moins, ils peuvent dire qu'ils ont vécu mai 68, tu vois.
Ah, c'est du sport. N'écoutez pas du sport. Il ne dit que des horreurs. Il est pire que moi.
On range, là?
Ah ouais, on range.
Oh, merde. Je suis pas prêt, tiens. Je suis toujours le dernier prévenu. Allez. Thomas, s'il te plaît, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission numéro 155 en cours de route?
Combien?
155.
Eh ben déjà. Alors, nous avons une spéciale mai 68 aujourd'hui avec une dépêche en direct. Non, Pascal Sevran est vivant. Une interview téléphonique avec Alexandre Franck et Arnaud Bureau pour mai 68, la bande dessinée. Du shonen yogiesque, de la bande dessinée psychédélique, du dragon cochon, de l'espion amnésique en trilogie en DVD, du comic books, de l'anniversaire de Donjon, du Desproges, le retour de Jardin Secret et des animateurs qui incarnent l'esprit 68.
Nom d'un lendemain qui déchante, ils ont manqué tout ça. Heureusement, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et les chroniques écrites. Aussi, fouillez dans nos archives, laissez vos commentaires, posez vos questions, parfois gagnez des BD, n'hésitez pas à aller sur le site web. C'est très simple, vous cherchez Supplément Week-end, FMR, ou Supplément Week-end, MP3, sur Google, vous tombez direct sur nous. Ou sinon, supplémentweekend.tk, sans accent ni tiré. Sinon, le site de l'émission, le site de la radio elle-même, radio-fmr.net. Une dédicace cet après-midi?
Oui, à la librairie Album à partir de 15h. Nous avons donc Gilles Harris pour Dofus Monster tome 2, Kroon-chan pour Dofus Monster tome 1 et Bretzner pour Dofus Arena.
Et si vous souhaitez absolument sortir, allez le dire avec les fleurs, puisque les serres municipales
ouvrent
leurs portes, c'est une fois par an. Et donc c'est, je crois, cet après-midi, 14h, 18h.
C'est tout le week-end. Hein,
et demain, de 10h à 18h, je dis ça de mémoire. Hein. Donc voilà. La suite des programmes sur la poubelle des radios, les programmes sont effacés, c'est une grève de l'ORTF. Donc je vous laisse de suite avec du sein.
Et la semaine prochaine, un supplément week-end spécial Iron Man. avec chronique de Iron Man Extremis. Nous aurons l'interview de Adi Granoff, character designer du film de Jon Favreau, et voilà, je crois, c'est tout.
Voilà, on se fout pas de votre gueule, hein, nous. Voilà. Ciao, bye bye, see you.